Vous écoutez France Culture.
Diffusé 5 jours sur 7 du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Bertrand Chometon, avec aujourd'hui Jean-Guilain Meige à la technique et préparé par Geneviève Méric, Jeanne-Marie Roux, Mathilde Unger, Avril Ventura et Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez à 10h50 tout à l'heure, donc pour le journal des Nouveaux Chemins, où elle recevra la philosophe Cynthia Fleury pour un excellent livre, La fin du courage, paru chez Fayard. Et c'est le début, ce lundi, d'une semaine sur le bonheur dans les nouveaux chemins de la connaissance, les tristesses du bonheur, car il y a les tristesses du bonheur comme il y a les inégalités de l'égalité. Pourquoi le bonheur est-il si triste? D'où vient l'amertume qui le suit comme son ombre? Est-ce de n'être qu'une parenthèse? Un point de suspension? Au cœur de la source des plaisirs, crie Lucrèce, jaillit quelque chose d'amer, qui, au sein même des délices, vous reste dans la gorge. L'expérience du bonheur étant inséparable de la crainte, en elle-même fatale, qu'il s'achève, tout homme heureux, en un sens, est un homme averti, dont le bonheur succombe dès qu'il en prend conscience. Le bonheur comme l'amour est-il lucide ou il n'est pas? Savoir qu'on est heureux, c'est d'emblée savoir que le bonheur ne dure pas, et donc vouloir qu'il dure, or vouloir être encore heureux, c'est déjà ne plus l'être. En matière de bonheur, la fin du début, c'est le début de la fin. On l'envie, il nous ennuie, puis il s'enfuit. Bonjour Julie Giovacchini.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture et sur les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de philosophie hellénistique, auteur d'Épicure aux belles lettres. Ça tombe bien, c'est avec lui, comme il se doit, que nous allons commencer cette semaine sur le bonheur. Et on va commencer, comme il se doit également, par dissiper une idée reçue sur Épicure. Épicure est de ces philosophes qui, avec Machiavel, ou avec Tartuffe, qui n'est pas philosophe d'ailleurs, ont ce privilège d'avoir vu, enfin, d'avoir transformé finalement un nom propre en nom commun, hein, l'épicurisme, le machiavélisme ou les tartufferies. Le problème, c'est que ce passage au général, au nom commun, s'accompagne bien souvent de malentendus, de simplifications, de falsifications. C'est particulièrement vrai avec Épicure, dont on a aujourd'hui, quand on ne l'a pas lu, quelques préjugés. On le réduit en somme en général à un hédonisme un peu grossier. L'épicurien, en gros, c'est le bon vivant. L'hédoniste, le libertin, or c'est autrement plus intéressant et profond que cela.
C'est-à-dire que oui, là c'est le cliché du pourceau d'Épicure. Épicure était un ascète, comme la plupart des philosophes de la période hellénistique, c'est-à-dire que la pensée du bonheur qu'il construit n'est jamais une pensée qui pense trouver le bonheur dans le trop-plein, dans le débordement de jouissance, mais c'est plutôt une pensée d'un bonheur rationnel qu'on va obtenir par maîtrise de soi et maîtrise de la nature. Donc on est effectivement à milieu du cliché de l'épicurien sybarite qui mange beaucoup, dort beaucoup, fait beaucoup l'amour, est très heureux parce qu'il est dans la jouissance
voilà,
totale.
Du rhum, des femmes et de la bière nom de Dieu, ça c'est pas Épicure.
C'est pas du tout ça.
Ça, c'est pas Épicure. Pourtant, celui qui le chante probablement se vit lui-même comme épicurien. Un point sur le pourceau d'Épicure, je me suis laissé dire que si le pourceau était l'animal épicurien par excellence, ça n'était donc pas parce qu'il aimait la fange et l'outrance et la démesure, etc. Mais c'est parce que sa colonne vertébrale ne lui interdisait de regarder le ciel. Et qu'à cet égard, donc, un animal qui ne peut pas regarder vers le ciel, mais qui est contraint de mettre son groin là où il peut, et sur ce qu'il a sous le nez, si j'ose dire, est typiquement, pour le coup, épicurien.
Ça, effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'Épicure aurait désavoué dans la mesure où, au sens pour moi très noble du terme, Épicure aime bien mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il va aller regarder la nature de près, il veut soulever le voile des choses et à partir de cette analyse de la nature, y compris dans ce cas-là de plus trivial et de moins relevé, de moins éthéré, il veut véritablement sauver l'humanité. C'est son projet, c'est son intention. Et s'il faut pour cela aller regarder ce qu'il y a de plus vil et de plus bas, ça ne va pas le déranger.
Donc il s'agit de sauver l'humanité sans exclure ce qui pourrait sembler indigne à une âme noble ou à une âme pure, ou une âme qui prendrait sa pureté pour de la noblesse.
C'est-à-dire que justement, je crois que pour les épicuriens en général, on n'est jamais plus en danger de malheur que lorsqu'on perd de vue ce qui est finalement l'essentiel de la condition humaine, la maladie, la souffrance, la mort.
Alors dans la lettre à Idoménée qui est citée par Diogène Laërce dans les Vies et Doctrines des philosophes illustres, pour aller dans votre sens, Épicure justement revient, hein, c'est un texte très bref, sur ces douleurs physiques, sur ces douleurs infâmes qui font précisément le malheur des hommes. Écoutez.
Je vous écris cette lettre alors que je passe et achève en même temps le bienheureux jour de ma vie. Les douleurs que provoquent la rétention d'urine et la dysenterie se sont succédées sans que s'atténue l'intensité extrême qui est la leur. Mais à tout cela, la joie qu'éprouve mon âme a résisté au souvenir de nos conversations passées. Prends soin des enfants de Métrodore, en te montrant digne de la disposition d'esprit que tu as manifestée envers moi depuis que tu es jeune, et de la philosophie.
Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues.
Julie Diovacchini, est-ce qu'Épicure envisage le bonheur autrement que comme l'absence de douleur? Est-ce qu'il y a une pensée positive du bonheur ou est-ce que le bonheur s'éprouve comme tout simplement l'absence de ce qui nous fait souffrir, à la façon dont Aurélien, l'Aurélien d'Aragon, on en parlait la semaine dernière à propos d'Aristote, a senti à un moment l'absence de Bérénice dans ses bras?
Alors, en fait, il me semble que cette question retourne un petit peu l'ordre des priorités. Ce n'est pas que... on ne puisse pas être heureux hors l'absence de douleur, c'est que c'est le premier problème, la douleur. On a des corps, c'est bien ennuyeux, ça nous fait souffrir. Et le premier constat qu'Épicure dresse sur l'humanité, c'est que l'humanité est malade. Si l'humanité n'était pas malade, de son corps et de son âme, si elle ne souffrait pas dans son corps d'abord et dans son âme ensuite, il n'y aurait pas besoin de philosophie. Donc on va commencer par essayer d'éradiquer cette souffrance-là. Et ensuite, dans un second temps, lorsque le corps comme l'âme sont apaisés, sont dans ce qu'Épicure appelle l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, un état d'équilibre en quelque sorte, là, il peut se produire que des plaisirs en plus surviennent et viennent ajouter un petit peu. Mais bon, là, c'est quelque chose qui est en débat.
Donc le constat d'Épicure, point de départ, c'est le malheur de l'homme.
Exactement.
Il y a de cela d'ailleurs peut-être une remarque un peu générale à tirer sur tout démonisme, toute philosophie du bonheur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Julie Giovacchini. J'ai le sentiment, en travaillant un peu pour les besoins de cette émission, notamment sur la pensée d'Épicure, c'est-à-dire aussi de son interprète Lucrèce, que le point de départ de toute philosophie du bonheur, de toute philosophie qui promeut le bonheur, est un point de départ désespérant, voire déprimant. L'homme est malheureux, la vie n'a pas de sens. Il y a toujours, au principe d'un eudémonisme ou de la quête du bonheur, un point de départ qui, en lui-même, relève du désespoir. Ce qui est une critique, d'ailleurs, que font ceux qui ne font pas du bonheur l'objet premier de leur recherche en expliquant qu'ils ont mieux à faire qu'à adoucir ou atténuer par des bonheurs fugaces la vacuité ou la difficulté de vivre.
Pour faire un rapprochement totalement anachronique et irrévérencieux,
allez-y.
Dans Caligula de Camus, les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Ça, effectivement, je ne sais pas si c'est le mot d'ordre de tout eudémonisme, mais pour un épicurien, c'est le point de départ de sa réflexion et de son désir de philosophie.
Les hommes meurent et ne sont pas heureux.
Exactement. Donc, voilà, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester dans cet état, c'est une catastrophe. Ça peut, d'un certain point de vue, être considéré comme une vision utilitariste et grossière de la philosophie. D'un autre point de vue, on peut considérer que c'est le signe d'une très grande objectivité.